France Inter.
Vous qui nous écoutez en podcast, c'est l'heure de l'apéro, c'est Bistroscopie. Je rejoins mon fameux bar où m'attend Ramzi Bedia pour un film de Baya Kasmi. Donc c'est un acteur de cinéma que je reçois ce soir. Enfin, ce que je dis ce soir. Peut-être vous m'écoutez le matin en fait. J'ai oublié que c'était du podcast. Ou le midi. Ou à minuit. Quand vous voulez quoi.
Oh, je suis malade. Il vaut mieux pas que je vous approche.
Mais Ramzi, alors, qu'est-ce qui se passe?
La tête, j'ai froid, j'ai chaud.
Alors, on va faire un grog?
Ah ouais. Je te jure, je me suis dit, je suis sûr, on va boire un verre et je savais pas quoi boire.
Bah voilà.
Je voudrais une boisson de malade chaude.
On est là pour sonder la profonditude de toi-même et de ton personnage.
J'ai tellement hâte de commencer cette profonditude.
Attends, parce que moi, on est samedi soir. Moi, je reçois Ramzi. Moi, j'ai dit à mes proches, on est samedi soir, je reçois Ramzi, je ne rentrerai pas ce soir, ne m'attendez pas.
Alors que, du coup, on est mercredi et il est 15h, elle va rentrer parfaitement à l'heure.
Mais non, il casse la magie. Et en plus, il est malade. Ramzi, si tu décèdes, est-ce que tu peux décéder en direct dans mon émission?
Tu veux que je te tienne au courant de chacun de mes symptômes pendant l'émission?
Allez, viens, on va te soigner.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Ramzi, j'ai une question un peu particulière pour commencer.
J'adore ce début d'interview, Charline.
Vous avez 7 sœurs.
Oui.
Vous savez donc ce que c'est que de faire partie d'une minorité opprimée?
De fou. Et je sais ce que c'est que d'être élevé par des filles.
Ouais.
Mais tu sais... Pardon, Charline, vous savez que opprimé, vous êtes pas loin. Hein. J'étais pas martyrisé, mais j'ai été. J'avais pas mon mot à dire.
Elles étaient dures un peu.
Très
avec...
dures toutes. Et dures dans le sens où Ramzi, sois un homme. Donc pleure pas, fais pas si.
Ah.
Tout le temps. Comme j'étais le seul garçon, elles m'ont forcé, elles m'ont porté pour que je sois l'homme de la famille. Alors j'étais le plus petit en plus. Hein.
Et ça a fonctionné? Aujourd'hui, vous pleurez
oui.
Pas, vous êtes un homme fort?
Pas devant mes sœurs, en tout cas.
Est-ce que, Ramzi, tu te rappelles à quel moment tu as pris conscience que tu étais drôle?
À l'école. Alors, ma réponse sort comme ça, parce que j'y ai déjà réfléchi et j'ai ma réponse là-dessus.
Ah ouais.
Mes parents m'ont payé l'école privée catholique pour pas que je sois à l'école de la cité, qu'ils aient, de ma cité où j'habitais. Mmh. Du coup, ils travaillaient pour me payer l'école catholique et ils ne pouvaient me payer que l'école catholique. Donc, j'avais pas d'argent pour avoir des beaux habits de l'école privée comme tout le monde. Et je n'étais jamais invité au boum, aux anniversaires. J'étais toujours un petit peu exogamé du groupe. Pas par racisme, hein, par social, un truc social. J'avais pas
l'école. Exogamé.
Oui.
L'interview n'a pas commencé de 1 minute 30. On a déjà un niveau.
Je risque de passer en exorde tout à l'heure. J'ai appris il n'y a pas longtemps en exemple.
Quelqu'un dictionnaire.
Et un jour, j'ai compris, j'étais jamais invité au boom, et un jour, j'entends Olivier Kahn, s'il se souvient de moi, celui-là, je le détestais. Et je les entends parler, et j'attrape la phrase, mais mercredi, on fait comment? Ben, on n'a qu'à inviter Ramzi, comme ça, il nous fera rigoler. Et j'ai compris que je pouvais être invité en faisant rigoler tout le monde.
Mais tu l'as pris comment à ce moment-là? Bien ou pas bien?
Super bien. Avec le recul, peut-être un peu. Je comprenais que j'étais là pour faire le clown et que les filles, c'était pas pour moi. Le groupe de mecs super stylés avec des Weston, c'était pas pour moi. Mais j'étais content de faire partie du groupe. Et je crois que c'est ça le plus important.
Et donc l'humour comme vecteur d'intégration?
Totalement. Ah oui. Totalement. J'ai pu rentrer dans le groupe. Les gens oubliaient que j'avais pas de belles chaussures, pas de beaux habits et tout ça. En faisant des blagues. Et les gens oubliaient que j'étais arabe en faisant des blagues. Ça cachait tout. Et je me rendais compte aussi que les autres n'étaient pas drôles.
Ah.
Et je me suis dit, tiens, j'ai un truc à jouer.
J'ai un truc en plus.
J'ai un truc à jouer.
Si on est arabe, pauvre, dans une école catholique et qu'on n'a pas d'humour, l'intégration, c'est quand même chaud. Alors.
Ça a dû être très dur pour eux. C'est des très bons souvenirs. Et la preuve, je gagne ma vie aujourd'hui avec ça. Donc, je remercie cette école et tous mes potes de l'époque. Je pensais pas que c'était des potes, mais en fait, ils font partie de mon histoire et je les remercie.
Les écoles catholiques privées ont pas toujours bonne presse. Il y a pas eu des claques qui se sont perdues.
Si, j'en prenais des baffes.
Ah bon?
Je dis pas son nom parce que c'est fou, hein. Je n'en veux pas. Ça faisait partie de l'éducation de l'époque. Je me souviens, il disait Ramzi Bedia, debout. Je me levais de la classe, j'allais devant, il mettait une main comme ça.
Ah, il mettait des tartes.
Et tu retournes t'asseoir.
Ça, aujourd'hui, c'est mis en question, moi, je crois.
C'est comme ça à l'époque.
C'était intégré, normalisé, donc on rentrait pas à la maison en disant j'ai reçu une tarte. Ou j'ai vu quelqu'un qui a reçu une tarte.
Mon école s'appelait Bétarane. C'était en banlieue. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu...
Bah non, mais parce que... vous ne souvenez pas trop l'actu, je sais. Ah non, il m'a eu. Putain, j'étais type premier degré.
T'as plongé dans Bétarane?
Mais complètement.
Moi, j'étais dans une école catholique super. Super. J'ai pris quelques baffes, mais comme tout le monde à l'époque. Mais c'était super. Bon. Je fais tout mon catéchisme. Je te jure, c'est vrai. J'ai pas fait mon baptême. Je suis pas baptisé, mais j'ai fait tout mon catéchisme.
Tu te rappelles encore des prières ?
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant est à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, alléluia.
Bravo. Vous mettez un point d'honneur à rire de tout, Ramzy. On a l'impression que vous pouvez tout tourner en dérision.
Oui, il y en a plein comme ça, il n'y a pas que moi.
Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un ou l'autre sujet sur lequel vous n'arrivez pas à rire parce que c'est trop proche de vous ?
On s'est fait un... On est choquant avec Eric Judor, mon ami. On est choquant parce qu'on rit vraiment de tout. Et proche de nous, la mort de nos parents, la maladie, nos enfants. On fait toutes les vannes possibles. Toutes les vannes.
Et ça, c'est un moyen de vie, de survie, d'affronter le réel.
De désamorcer des stress. Bien entendu que je suis en stress, dès que mon fils a un rhume, je suis pas bien. Mais du coup, d'imaginer le sida quand il a le rhume, ça nous fait rire.
Ok, j'ai ma réponse. C'est vraiment, vous riez de tout et sans complexe. J'adore l'idée. Ouais, voilà. C'est génial.
Et je sors. Et en fait, je me dis dans ma tête, mon cerveau dit, ça va, c'est un rhume, détends-toi.
Ramzy, vous êtes à l'affiche du film Mikado, avec Félix Moati, Vima Laponce, Patience Muckenbach, Saul Benchetrit et Louis Aubry.
Vous l'avez vu, cette petite Patience, comment elle est fabuleuse?
Oui, mais tous sont fabuleux.
Tout le monde.
Oui, vraiment. Très belle, jolie troupe, parce que vous êtes juste ces acteurs-là.
Oui.
Voilà. Alors, Mikado, c'est un père de famille qui est interprété par Félix Moati, qui, avec sa femme et ses deux enfants, vivent en marge. Ils vivent sur les routes, dans une camionnette.
C'est ça.
Mm-hmm. Et puis, un jour, une panne de moteur les fait se sédentariser chez un enseignant du sud de la France qui s'appelle Vincent. C'est votre personnage, Ramzy. Et ça va tout remettre en question, mais chez tout le monde. Ce sont deux mondes qui se rencontrent. Généralement, dans les films, quand il y a deux mondes qui se rencontrent, il peut y avoir un peu de clichés, etc. Ici, c'est très doux. Il y a la demeure bourgeoise de Vincent, qui est un peu bobo cool, comme ça.
Et qui est délabrée, un peu.
Qui est un peu délabrée, ouais. Et la famille, presque de bab, mais on sent que c'est des enfants de la DAS, ils vivent en marge. Et le contraste est assez doux entre ces deux univers, parce qu'on sent qu'ils partagent, dans le fond, certaines valeurs communes. Donc, finalement, dans ces deux univers qui semblent très différents et qui ont quand même des proximités, qu'est-ce que ça va raconter? Qu'est-ce qui peut se dégager de cette histoire? Quel thème?
Quand je fais un film avec Baya, je me laisse totalement porter par ce qu'elle a dans la tête, sa vision, sa sensibilité. Et moi-même, je suis surpris. Ce personnage-là qui reçoit cette famille un petit peu en marge et qui les reçoit chez lui... Ben même moi, je ne comprenais pas trop les rapports qu'ils ont, parce que personnellement, moi, Ramzy, je ne le ferais pas d'accueillir une famille comme ça dans mon jardin.
Il a un grand jardin pourtant.
Il a un grand jardin, une grande maison, mais il a ses problèmes aussi. C'est tellement subtil et vaporeux,
oui,
j'ai l'impression.
C'est subtil. C'est ce que je disais, deux univers qui se rencontrent, mais qui ne sont pas complètement diamétralement opposés dans les valeurs, donc ça donne quelque chose de subtil.
C'est voilà. Ça, c'est pas c'est le ça. Riche qui rencontre le pauvre ou le méchant qui rencontre le gentil.
Exactement. La première apparition de votre personnage à l'écran dans ce film, il est allongé sous le capot de sa voiture avec ses lunettes de vue sur le ventre. Et je me suis dit, en ayant vu le film, ça résume bien le personnage.
Ah bon ?
Alors comment est-ce qu'on pourrait dire que ça résume le personnage ? Qu'est-ce qu'il fout en dessous de sa bagnole ? Est-ce qu'il y arrive déjà ? À réparer sa bagnole ?
Non, il n'y arrive pas. Il va regarder sous sa bagnole, mais c'est un homme de lettres.
Voilà.
C'est pas du
D'où
tout
les
un homme.
Sur le ventre.
Du coup, il garde ses lunettes tout le temps avec lui. Si c'était un vrai mécano, il n'aurait pas ses lunettes avec lui, là.
Donc il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc il rencontre cette famille qui est en marge. C'est un bourgeois avec tous les codes de la bourgeoisie. C'est-à-dire, il y a le jazz, la bibliothèque,
oui,
le piano, le déjeuner dans le jardin. Mais en chemise froissée. Et je me suis dit, est-ce que ça a été facile pour vous de se glisser dans ce personnage? Est-ce qu'il résonne un petit peu avec vous aujourd'hui? Qui vous êtes forcément, avec le succès et tout, un peu embourgeoisé, mais vraiment à la cool. Type chemise froissée.
Je comprends bien votre question, Charline, mais comment... tout le monde était comme toi, Charles. Qu'est-ce que j'aimerais faire de la promo.
Donc vous feriez chier à un moment.
Non, ouais, mais au moins on discute bien. C'est vraiment moi, le truc que j'ai retrouvé chez lui. Moi, ma mère m'a toujours dit que j'étais un clochard de luxe depuis que j'ai de l'argent.
Ah, ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que j'ai de l'argent et que je continue de m'habiller comme un clochard, comme dit ma mère. J'ai aucun signe extérieur de richesse.
Un clochard céleste.
Ça, j'aime bien ça. Et je suis vraiment un bourgeois froissé. J'ai beaucoup aimé votre expression. J'ai de l'argent, mais tout est froissé. De toute façon, je à partir du moment où ça va, j'ai de l'argent. Je vais bien, mon parcours de vie s'est bien passé. Pourquoi montrer aux autres que j'en ai? L'argent, il est pour moi, pour ma famille, pour mon confort, pour mon bien-être. Pourquoi le dire aux autres que j'en ai? C'est ça que je ne comprends pas. Dans les gens qui sont riches et qui le disent aux autres. À partir du moment où tu as acheté une Porsche, une BM, une Porsche, une montre, des habits de luxe, je saisis pas. Je trouve que les vêtements de luxe, ça va pour les gens qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent du coup exister socialement ou appartenir à un groupe et qui veulent un peu péter plus haut que leur cul et montrer une autre image qu'eux. Je trouve que ça sert à ça, les habits de luxe. Une fois que tu as de l'argent, c'est bon.
Parce que
un jogging et une Swatch, on est bien.
On est tous abreuvés de ces codes ultra-bourgeois. Même quand on est pauvre, et il suffit qu'on allume la télé, on est matraqué de codes bourgeois, en fait.
Un jour, j'étais en voiture, vous jure que c'est vrai, et je m'arrête à un feu rouge, et je me regarde dans le reflet d'une vitrine. Je tourne ma tête, et là, je vois un mec en Porsche cabriolet, avec une chemise Dior et une montre en or rose.
En or rose?
Ouais. Et je regarde dans la vitrine et je fais, c'est moi. Et je suis rentré chez moi et j'ai tout vendu. Tout vendu. Et aujourd'hui, j'ai pas de montre, j'ai un scooter. Et cette image de moi en Porsche cabriolet avec une Rolex en or, oh là 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 là, quand je vous en parle encore, c'était tellement à l'opposé de moi. Et je m'étais pas rendu compte que j'étais arrivé à ce mec-là, petit à petit.
Le système vous y pousse aussi, c'est la manière dont vous êtes entouré quand vous avez du succès, etc.
J'avais pas encore confiance en moi. C'est...
Il a suffi de ce reflet.
Ah oui, je m'en souviens. Marqué.
Attendez, c'est métaphorique. C'est votre reflet dans une vitrine.
J'étais au feu, je tourne la tête et je vois ce mec. Les cinq premières secondes, je dis, il me dégoûte ce type. Et après, je fais, c'est moi. Ok, ouais. Très bien.
Vous dites que votre maman, elle ne vous a pas transmis en héritage de l'argent, parce
non,
que vous
ne
rouliez pas sur l'or du tout, mais la culture de l'Oranie, d'Oran.
Oui.
Et donc, c'est peut-être ça qui vous fait un filtre comme ça et qui vous fait garder ses pieds sur terre. Ça veut dire quoi, de transmettre la culture d'Oran plutôt que de l'argent?
Je suis passé par ça. Hein. Je suis passé par, donc, comme je viens de vous le dire, la Porsche et toutes ces conneries. Mais quand je suis retombé sur mes pieds et je suis redevenu normal, un homme normal, habillé normalement en scooter,
vous êtes retrouvé?
C'est fou, ça fait trop profond ce que je vais dire, ou de la psychologie à deux balles.
Allez-y.
La seule chose de luxe qui me reste justement, c'est cette bague de mon papa, d'Oran.
Ouais, comme qui ressemble à une sorte de chevalière,
oui.
Mais simple.
Et c'est mon seul truc que j'ai. De bijoux, de trucs, de signes extérieurs, de richesse. Ouais. Le seul truc qui peut coûter sur moi, c'est cette bague et celle que j'ai récupérée de mon père.
Votre personnage, elle l'a dans le film.
Je l'ai toujours,
vous
je
l'avais gardée.
Ouais. Ouais. Pour l'instant, les réals, ils le voient pas. Je dis aux réals, je peux la garder, ça te dérange pas? Oui, je m'en fiche. Et ça y est, mais si tu vois tous les films, je l'ai toujours. J'arrive pas à l'enlever.
C'est dans Mikado où vous jouez le prof entouré de livres. Dans le précédent film de Baya Kasmi, Youssef Salem a du succès. Vous jouez un écrivain. Est-ce que dans ces deux personnages-là, les deux derniers films de Baya d'ailleurs, vous jouez peut-être celui que vous auriez rêvé d'être quand vous étiez ado?
Tellement. Mais c'est ce qui me bouleverse chez Baya. Je ne sais pas qui a envoyé cette personne dans ma vie.
Elle vous a percé à jour, j'ai l'impression.
C'est fou. C'est incroyable. On dirait ma huitième sœur qui me dit les vrais, qui n'a pas honte de dire la vérité sur moi. Ouais. Il y a une sorte de pudeur chez nous, en tout cas, et avec mes sœurs. J'ai une sorte de pudeur, bien entendu. Et Baya perce tout. Et à chaque fois que je le fais avec Baya, je me dis, mais non, quand mes sœurs vont voir ça, ça va être horrible. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça par rapport à ma famille. Et quand ça sort, ma famille adore Baya. Ah, voilà un film, voilà, super. Mmh. Là, t'as dit des choses bien. Des choses que j'ai gardées enfouies en moi depuis 40, oui. 50 ans. Mmh. Baya les sort avec impudeur. Et ça me fait du mal à chaque fois. Mmh. Enfin, pas du mal, non, mais...
Ça vous remet en question ?
Oui, elle me pousse à chaque fois. Je dis non, je peux pas faire ça. Elle me fait si, fais-le, fais-le. Je me laisse faire par elle. Et c'est validé par toute ma famille à chaque fois.
Ça vous donne des rôles extraordinaires et vous êtes acteur pleinement.
C'est Baya. Le jour où Baya prend un autre acteur que moi, je serai triste, mais triste. C'est les seuls films où j'ai pas l'impression de faire du cinéma, être sur un plateau, à être acteur. Non, là, j'ai l'impression que c'est ma huitième sœur.
D'ailleurs, votre personnage Vincent, dans sa maison cossue du sud de la France, il prend un petit peu sous son aile. C'est une jeune fille qui vient d'une famille de vagabonds, un peu. Oui. Hein, on l'a dit, qui est incarnée par Patience Munkenbach. Elle s'appelle Nuage. Et vous lui mettez pas des livres en main, mais presque, il y a un petit peu ce côté où vous lui faites corriger une rédaction, etc. Est-ce que finalement, ça, c'est pas vous avec votre sœur Melra Bedia ?
Si, complètement. Mais, ben oui. Oh, j'ai envie de m'allonger et de vous donner 150 euros à la fin.
Vous savez, c'est le service public, Ramzy.
À la fin de l'heure.
C'est vraiment une mission de service public, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ?
Je vous dois combien.
Mais ça, vous vous en rendez compte au moment de lire le scénar ?
Non,
vous le voyez après.
Après.
Mais ça vous permet d'être à l'aise avec cette idée, ce rôle et de l'incarner pleinement.
Je me laisse faire par Baya. Mmh. Et je ne sais pas quoi dire d'autre que c'est ma huitième sœur. Impudique. C'est ma sœur impudique.
Ah oui.
Mais
oui,
que toutes les autres... Ma famille la respecte et l'adore pour ça.
Et c'est la profondeur du film, c'est qu'il raconte comment, en tant que parent, ça c'est Baya qui le dit dans son intention, comment en tant que parent on essaye de rattraper les ratés de ses propres enfants.
Oui.
C'est le cas dans les deux familles, c'est-à-dire vous avec votre fille dans cette maison,
et
puis cette famille de, je dirais, le vagabond. Hein, voilà.
Oui, c'est ça.
Donc ça, forcément, ça résonne en chacun.
Oui, oui. Oh, j'ai des choses trop profondes à vous dire, Charline. Je peux pas. C'est hors interview, ça.
Ok. D'accord.
C'est trop profond pour moi, ça.
On coupera.
C'est trop profond, là.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Vous disiez au début de votre carrière que dans l'humour, vous étiez fière avec Éric Judor de ne pas être compris.
Moi, j'ai la chance de pratiquer mon métier avec Éric Judor. On est deux. Si j'avais pas Eric, peut-être que je serais pas le Ramzy que je suis là. Et encore aujourd'hui, avec Eric, on se garde à la marge, on se retire à la marge. Quand il y en a un qui rentre un peu dans le rang, il y en a un autre qui le retire. Enfin, il y a une phrase qui est exceptionnelle pour moi, qui dirige ma vie et que j'apprends à mon fils, qui est une phrase d'un groupe de rap qui s'appelait Secret Connection, qui est un groupe mythique, je sais pas si tu connais.
Ah, moi je connais pas, non.
Et leur motto, pas moto à bécane, moto en anglais, leur devise.
Ah, ok.
C'est
leur mantra, ouais.
Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction.
Non,
ça fait 30 ans qu'on essaye ça, ouais. Qu'on se tient à ça. Donc, il y a deux trucs. Il y a la tendance et la direction. On essaye de jamais être dans la tendance. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais être dans la tendance. Ce qui implique... De quand tu sors tes trucs, on te vanne, on te dit c'est nul, c'est pas grave. Mais on sait qu'on est dans la bonne direction.
Et puis, le Jamel Comedy Club a opéré une révolution. L'émergence des stand-uppers de la banlieue, tout ça a vraiment changé la société. Vous êtes arrivé même un peu avant,
bien
même
avant.
Temps. Voilà, c'est
il
n'y
avait
ça.
Pas de stand-up avant.
Ouais, 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 ouais. Donc vous avez amorcé ce chemin. Aujourd'hui, quand vous regardez les choses, c'est quand même une révolution, non ? Ça a permis d'avoir une parole pertinente et claquante qui vient de banlieue, qui parle à plein de gens, qui parle à tout le monde, même au quartier bourgeois. Vous voyez pas ça comme une révolution ?
Je trouve que la révolution, elle s'est faite quand Jamel est arrivé, quand Gad est arrivé, puis à un plus petit niveau, quand Eric et Ramzy on est arrivé. La révolution, elle était qu'il y ait des basanés sur scène et des gens avec un autre rythme, une autre façon de parler. C'était ça, la révolution. Alors, ça venait de banlieue, pas pour Gad, mais ni pour Eric, mais la révolution, elle était là. Je sais qu'on a amené cette génération-là, dont je fais partie, on a amené une autre façon de parler, un autre rythme, une autre vitesse. Et là, je suis en train de répéter les phrases de Michel Drucker, où j'entendais Michel Drucker dans une interview. Je suis pas fasciné par les interviews de Michel Drucker. Et où il disait ça, en fait, la question que tu me poses a été posée à Michel Drucker. Et il disait ça, je trouvais ça très juste. Il fait, ces gamins-là, à l'époque, disaient, ils ramènent une façon de parler, ils vont vite. Et je me rappelle, ils disaient, ils vont très vite. C'est ça qu'on a amené. Ensuite,
la sur scène et à la télévision avec la série H.
C'est ça.
Il y avait un flow.
En fait, c'est un flow qui représentait le moment. C'était le bon moment, c'était l'époque. Mmh. On a eu énormément de chance d'être là, à ce moment-là. Mais le flow, il fallait le mettre en lumière, quoi. Ce flow est là. Et puis maintenant, on le voit, il est partout. Mmh. C'est le flow français.
Parce qu'à ce moment-là, on voyait, où on disait un noir et un arabe sur scène ou à la télé. C'est moins le cas aujourd'hui ou ça n'a pas changé, d'après toi ?
Moi, c'est ce que je reproche un peu aujourd'hui. Éric et moi, on a jamais fait d'humour sur la cité. Jamais. On n'a jamais fait les caïras, on n'a jamais parlé comme ça, t'as vu ? On n'a jamais fait ça parce qu'on se disait non, il faut que les gens rient et qu'après ils se disent tiens, c'est un arabe et un noir qui nous font rire. Du coup, c'était ça notre créneau, contrairement à Jamel qui lui rentrait dedans. Et du coup, on s'est dit si Jamel fait ça, on n'a pas besoin. Et nous, on voulait ne pas parler de ça. Et ce que je reproche aujourd'hui, c'est que c'est ça. Les gens montent sur scène en disant « je suis arabe, je viens de cité ». Et voilà, tous les codes sont présents tout de suite. C'est la tendance d'aujourd'hui.
Ouais. C'est une affirmation de soi.
Et du coup, c'est plus nouveau. Nous, c'était intéressant parce que c'était nouveau. Ce n'est pas mieux que ce que font les gens d'aujourd'hui. Ils sont même meilleurs. On les voit dans Comedy Class, les gamins qu'on reçoit sont plus professionnels, plus travailleurs.
Vous avez fait des petits, en fait. Même si aujourd'hui, ils sont dans cet autre registre.
Complètement.
C'est vous les darons, un peu comme dans le rap, les MC Solar, IAM, NTM.
C'est ça.
Vous êtes un peu les darons de l'humour.
On
vous appelle
les tontons, souvent. On nous dit... On leur a montré que c'était possible à faire. On pouvait aussi aller sur scène, on pouvait aussi aller être acteur. Il n'y avait pas d'acteur, il n'y avait pas... Quand je suis arrivé, moi, c'était Guy Bedos, Muriel Robin, Pierre Palmade.
Mm-hmm. Petit ange.
Parti trop. C'était un autre univers qu'on a ramené. Mm. Donc, elle était là, la nouveauté. Je pense que plus que le talent, c'était ce nouveau flow. Et aujourd'hui, il faudrait un nouveau flow.
Plus que le talent.
Je fais le faux modeste dans ma tête. Non, mais c'est faux. C'est faux.
Mais non.
Je pense aux gens qui écoutent et qui. Je pense à Eric qui doit dire mais pour qui je prends de dire ça.
Et aujourd'hui, le racisme décomplexé. Comment est-ce que vous vivez ça, vous ?
C'est ouf, hein. C'est dur, hein. Je me dis là, ils ont gagné. Ils ont gagné, hein.
Pour l'instant.
Et pour longtemps, là, un peu.
Ouais.
Là, ils ont pris le... C'est ça qui me... Je me dis, il va falloir tenir. Il va falloir tenir et se rassembler, nous. Et j'espère qu'on va être beaucoup. Mais là, la vague, elle est chaude. Hein. Et alors, pour nous, c'est difficile. Mais alors, j'adore quand... C'est nul ce que je vais dire, vous le couperez. Mais quand des Blancs sont dans ce camp-là, quoi. Dans notre camp. Pas du camp des Arabes, dans le camp de... Ouais. Pas de leur camp de la connerie, quoi.
Ben non, c'est pas nul, c'est bien.
Moi, je trouve ça génial. Nous lâchez pas, parce que s'il n'y a plus vous, nous, on est dans des camps après.
Ouais.
Le mot camp est un peu fort, beaucoup trop fort. Mais quand j'ai vu la vidéo ASMR de Trump, où il a filmé son renvoi des immigrés, certains au Mexique, certains à Guantanamo... Il a filmé les chaînes, les bruits, les gens attachés. Et on dit rien, là. C'est grave, là, ce qui se passe. Donc, quand ça va venir chez nous, vu que lui, il fait tous les trucs les plus flippants, ça me fait peur. Moi, j'ai peur, je vous le dis.
Vous avez peur.
Ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai peur, parce que il y avait un exemple de... Il n'y a pas longtemps, quand il y avait les dernières élections législatives, c'était ça
au mois de juin.
C'était ça.
Quand on a vraiment cru que le RN allait passer. Ouais.
Et c'est le moment où j'ai vu la zone d'intérêt.
Ah oui, le film, bien sûr.
J'ai vu la zone d'intérêt à ce moment-là. Ça m'a terrorisé, quoi. Je me suis dit, c'est fou. Il y avait, dans une émission de télé, il y avait un couple devant leur pavillon, dans une émission de télé, qui gueulait sur une femme noire et qui disait, allez, hein, rentre à la niche, on est chez nous maintenant.
Je l'ai vu.
Maintenant, on est chez nous, hein. Allez, rentre. Cette décomplexion devant des caméras, de dire des mots comme rentre à la niche, la noire, on est chez nous.
Il va falloir tenir. Je retiens cette phrase que vous avez prononcée.
Il va falloir tenir. Mais là, la résistance ne sert à rien pour moi. C'est beaucoup trop fort, la vague qui arrive. J'ai l'impression qu'on a... La vague est énorme. On la voit arriver des États-Unis. Il y en a une autre qui arrive de l'Est. Et là, quand j'entends des gens dire, eh ben, on va résister, je fais, non, c'est, bon, non.
Oui, c'est-à-dire, autant plutôt utiliser
prendre
son,
la vague.
Son énergie à tenir, prendre la vague.
Je serais plus de prendre la vague.
Ouais, vous pensez que on n'aura pas l'énergie de résister et de tenir en même temps,
grosse.
C'est deux choses différentes.
Je pense, ouais. Je pense que la vague est trop grosse. La vidéo d'ASMR, les gens qu'on renvoie, les avortements qu'on arrête, les femmes, le retour en arrière. La vague est trop grosse. C'est même pas juste les Arabes ou les Noirs. C'est la vague est trop grosse.
L'aide au développement qui s'arrête, les mots interdits.
À dire on va résister. Avec... Ouais. C'est trop gros.
Ouais. Mais on peut continuer à rigoler, Ramzi.
Heureusement
qu'on a ça. Non
et c'est ça qui va nous sauver, la rigolade.
On va tenir avec en partie de la rigolade.
Ouais.
Il n'y aura pas que et ça. On...
Il faut essayer de prendre la vague. Quand elle passe, essayer de la prendre, passer derrière. Et laisse la vague détruire le littoral. On va revenir.
Ok.
C'est comme ça que je le vois.
Vous avez l'air d'avoir une bonne stratégie. Moi, je suis dans votre équipe.
C'est perdu, là. Là, c'est perdu.
Moi, je me dis, là, si la vague arrive, je suis dans l'équipe Ramzi.
Préparons un retour.
D'accord,
plutôt.
Très bien.
Montrons-leur qu'ils ont tort.
En relisant vos premières interviews avec Éric Judor, ça fait une petite paire d'années quand même, vous aviez une approche différente face aux villes FN pour aller jouer votre spectacle.
Oui.
Vous vous souvenez ?
Marignane, Orange.
Ouais. C'est-à-dire que Éric Judor dirait ah non, moi je refuse d'aller jouer là-bas. De toute façon, on prêchera pas de ces gens-là, etc., des convaincus. Et vous vous disiez non, il faut y aller pour jouer et être près de ceux qui résistent à ces gens-là.
Ça rejoint ce que je viens de dire, ouais.
C'était deux approches différentes.
Ouais. Je suis pas un combattant, je suis un résistant de l'ombre. Je suis un mec qui fomente... Tu sais, des fois, on marche dans les rues de Paris et puis on voit des plaques. Ici, Voltaire et Marat se sont réunis pour... Tu sais, des trucs... Robespierre a fait sa réunion. Hein. Je suis plus de ceux-là. Il va falloir trouver des restaurants, aller au Procope et préparer l'après.
Mais vous pensez que les riches, ils vont nous accueillir pour nous protéger ?
Non.
J'ai pas l'impression. Ils sont plutôt dans l'autre camp. Hein.
Tu sais, quand on a commencé à avoir de l'argent à l'époque de la série H... Mmh. Et ben, avec Jamel, on voulait louer des appartements dans les quartiers de riches. Dans le 6e et le 7e, on n'a jamais pu. Même en donnant un an de loyer d'avance, on a même dit 2 ans de loyer d'avance. Alors le propriétaire disait non. Et après, le mec de l'agence se dit bon, je vais vous dire la vérité, ils veulent pas d'arabes dans leur quartier.
Ah waouh.
Vous pouvez donner 2 ans de loyer d'avance. Mmh. Ça nous a fait ça dans le 6e et le 7e. Donc
les choses n'ont pas tellement changé alors ou quoi ?
La connerie, elle sera là tout le temps.
Ouais.
Hein, et ça nous a pas empêché d'y habiter. Et d'avoir les meilleurs apparts que
eux.
Et quand on descend, quand ils nous regardent, c'est un bonheur.
C'est vrai. Ouais. Et au début, quand vous étiez jeune, vous cherchiez des petits boulots, vous n'arriviez même pas à avoir un boulot de vendeur.
Ouais.
Vous disiez, c'est à cause de ma tête d'arabe.
Ouais.
Aujourd'hui, vous êtes au cinéma français,
dans
un rôle d'écrivain au Goncourt ou de professeur de lettres dans le sud de la France.
Et c'est ça, la vraie France. C'est ça, la France.
Donc c'est aussi des opportunités, malgré tout.
Bah oui, mon parcours, je ne l'aurais pas fait dans un autre pays qu'en France. Mm-hmm. Je pense. C'est très, très, très fier d'être français. C'est vrai, hein ?
J'ai une dernière question
pour
vous.
Là, on va plus trop l'être bientôt.
Plus trop être quoi ?
Fier d'être français, c'est dur, là.
Fier d'être français. Ah oui, ça, c'est toute votre identité qui va s'écrouler, là, parce que fier d'être français, c'est un mantra chez les Français.
Ah ouais.
Vous savez, moi, je suis belge, je dis jamais je suis fier d'être belge, ça n'existe pas.
T'es en Belgique en ce moment ? T'habites en Belgique ?
J'habite pas en Belgique, mais j'y retourne souvent. Je vais te poser une dernière question, Ramzi. On va bientôt se quitter. Alors j'ai une dernière question.
J'ai pas envie d'aller faire les autres trucs.
Oh, moi aussi j'ai envie de rester avec toi.
Je te jure.
Et je suis sûre que nos auditoristes, ils ont envie de rester avec toi aussi.
Les auditoristes ?
Les auditoristes.
Là, ils vont écouter les 35 minutes d'interview, les gens ?
Mais j'espère. Enfin, en tout cas, au début, t'as donné envie de t'écouter jusqu'au bout, donc j'espère qu'ils sont restés.
Tu vois, quand je suis dans ma voiture, j'écoute tous les interviews. Et même ceux qui... Là, j'en ai écouté un. Hein. Je sais pas si c'est chez toi. Non, c'est pas chez toi. Il y a un mec qui fait de la country française. Un chanteur qui est chanteur de country.
Ça. C'était sur France Inter.
Oui, j'écoute France Inter. Et je me suis dit, ça va me faire chier cette interview. Je le connais pas. Passionné pendant 35 minutes. Et j'ai été chasamé. J'ai été taper les numéros qu'il dit. Il m'a conseillé. C'est bien vos interviews.
C'est beau. Je vais rechercher qui c'est. Tout le monde est en train, là, en direct, de rechercher qui c'est country français sur France Inter.
Un mec qui fait de la country française, j'ai adoré son interview et je l'écoute et j'ai adoré ce mec.
Très bien, mission de service public, on t'a fait découvrir quelqu'un.
Ta dernière question.
Ouais, ma dernière question, Ramzi.
Elle appartenait à qui ?
Ah bah non, figure-toi que...
J'ai une vieille montre que
ouais,
ton grand-père t'a donnée.
Non, c'est quand j'ai fini mes études de journalisme, mes parents m'ont offert cette montre qui coûte pas très cher. Hein. J'ai changé le bracelet depuis, mais c'est la même depuis 20 ans. Mais je l'ai acheté à la bijouterie à la Louvière en Belgique chez moi.
Ah, c'est toi qui t'es payé.
Ouais, enfin c'est mes parents comme cadeau,
Ouais.
Mais c'est vrai qu'elle fait un petit peu
Ça vaut au moins 80 000 euros ça, ça vaut quoi? 80 000, 90 000
Mes parents ont dû payer 200 euros.
Et tu l'as encore?
Oui, bah ouais parce que tu vois, moi, enfin, ça va, mes parents, ils étaient
enseignants.
Pour
combien tu
la vends? Ah, rien.
Je te donne 100 000 euros.
Non.
Je te donne 100 000 euros.
Imagine, je dis oui en direct. Comme ça. Je dis oui.
J'aime bien voir.
Je dis oui. Hé, hey, France Inter, j'arrête pendant un an.
J'ai vendu la montre de papa. 200, là, je te donne 200 000 euros. Tu me la vends?
Ben non, parce que j'aurais l'impression de les trahir.
300 000.
Mais non, non, non.
300.
Mais non, après,
regarde
j'ai...
bien.
Moi,
regarde.
J'ai pas envie de devenir riche.
Voilà,
ça
je
me
te
fait
sors
peur.
300 000. 100, 200, 300. T'as 300 000 euros là. Tu me donnes ta montre? 300 000. T'achètes un appart à Bordeaux.
Non.
Tu mens.
Non, je te jure. Mais non, parce que là, franchement, je serais pas à la détacher et te la donner si je pensais.
400 000
t'es
euros.
T'es capable de le faire en plus.
400 000.
Non.
400 000, tu la vends pas?
Mais non. Mais moi, je veux... Non,
allez,
je veux pas.
Allez, 500, donne-moi.
Mais qu'est-ce que je ferais avec tout cet
argent? Avec 500 000, mais tu t'achètes...
Si, je sais. Attends, on fait ça. 500 000, attends, je te donne ma montre.
Là, tu me la donnes gratuit, là.
C'est quoi? Je te donne tout à SOS Méditerranée. Tout. Les 500 000, je te promets.
Ah, c'est parce qu'il y a le micro que tu...
Non, je veux pas avoir tout cet argent, moi.
Mais pourquoi?
Mais qu'est-ce que je ferais avec?
Bah, tu me les rends. Tu me les donnes.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une dernière question? Je crois pas. Hein. On va finir là-dessus.
Bah, on finit sur ces 400 000.
Bah ouais, voilà. Et un petit appel à SOS Méditerranée, après tout ce qu'on a dit.
SOS Méditerranée.
Voilà, je sais pas. T'as envie de... Il y a une assoce qui te tient à cœur? Tu veux faire la pub d'une assoce?
Oui, il y a une assoce que j'aime beaucoup.
Vas-y.
Qui s'appelle La Dictée pour tous.
Ah ouais?
Ils vont faire des dictées... Alors, c'est vieux maintenant. Ils allaient au début dans les quartiers pour faire des dictées à tout le monde. J'ai toujours bien aimé cette association.
Oui.
Et bien entendu, l'association des orphelins. Du Front National. Allez, c'est la fin. Au revoir.
Ramzi, Bédia, tu parlais de dictée. Bah, tu vois, en fait, c'est tellement cohérent avec ce personnage que tu as offert Baya Kasmi dans ce très joli film.
Très joli film.
Qui s'appelle Mikado, que je vous encourage très, très fort à aller voir.
Et je vous conseille vraiment d'aller voir les films de Baya, parce que quand Baya va être multi-oscarisé et que les Américains vont nous l'apprendre, on dira « Baya... »
Dira ça?
En plus classe, mais on dira.
En salle mercredi. Merci Ramzi.
J'ai envie d'annuler toute ma journée maintenant.
Je t'ai épuisé ou quoi?
Non, mais je ferai rien de plus intéressant comme interview que celle-ci.
C'est trop mignon.
Sur la tête de mon fils, j'en suis persuadée.
Oh, t'es choupie. Merci. Moi, j'étais trop ravie. Ainsi s'achève Bistroscopie, une émission préparée avec Clara Arconada, François Audon à la réalisation et Johanna Gabric à la technique. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h20.